Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour le début de cette sixième saison de La Terre à Boire, ce podcast que nous avons créé avec mes camarades Patrice Defay, Laurent Delceau, en octobre 2019, avec en tête cette idée simple, parler du vin sous toutes ses coutures. Pour tout vous dire, l'épisode qui va suivre a été enregistré en fin de saison dernière et notre vraie rentrée aura lieu dans quelques jours avec déjà une belle annonce à vous faire. Nous sommes très fiers d'avoir été choisis pour animer une session en live lors du Paris Podcast Festival 2022 qui se tiendra à la Gaîté Lyrique du 21 au 23 octobre prochain. Vous pourrez donc assister à l'enregistrement de La Terre à Boire le samedi 22 octobre après-midi. Consultez le programme pour connaître l'heure exacte, je ne la connais pas encore. Je ne vous en dis pas plus sur le contenu de l'émission, sachez seulement que nous aurons une invitée et que si tout se passe bien, nous pourrons vous faire déguster du vin. Ce sera une première à ma connaissance pour le festival. On espère donc vous voir nombreuses et nombreux à la Gaîté Lyrique le 22 octobre prochain. Allez, assez pour l'autopromo, place à l'épisode du jour où il est question de règles et de normes, de celles qui nous protègent et parfois peut-être nous enferment. Et quand on parle de normes dans le monde du vin, un nom vient immédiatement à l'esprit, ou plutôt un acronyme de 4 lettres. Cet épisode porte le numéro 95 et se nomme Allô Lienao, bienvenue dans La Terre à Boire.
À mes côtés, toujours Patrice Defay. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Et Laurent Delceau. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Aujourd'hui au programme, un épisode auquel on a pensé. C'est une idée qui a germé il y a quelques temps, à force d'entendre parler les vignerons. En bien, en mal, on va en discuter. La première chose, c'est qu'ils défendent le plus souvent le principe des appellations, mais il y a toujours un sujet autour du fonctionnement de ces appellations, et on s'est dit qu'il était temps qu'on parle de ce sujet avec les premiers intéressés. Bonjour Marie Guittard.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de l'INAO, l'Institut National de l'Origine et de la Qualité. Déjà, il y a un petit piège parce que le sigle ne dit pas exactement l'acronyme, mais on va y revenir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans La Terre à Boire. Donc voilà, vous savez que les vignerons parlent souvent de vous et des fois ils louangent le principe des appellations et puis des fois ils sont assez critiques. Je vous apprends rien.
Absolument pas. Vous n'apprenez rien.
On va rentrer dans le détail des sujets parce qu'ils sont nombreux. D'abord, on va essayer de s'intéresser au fonctionnement, à l'historique rapidement et au fonctionnement de l'INAO, comment ça marche, à quoi ça sert. Et puis, si vous le voulez bien, on parlera un peu des enjeux actuels et futurs de ce système si particulier des appellations. Patrice, l'INAO, c'est quoi et à quoi ça sert? Attention, la directrice t'écoute, hein, elle va te corriger.
Je parle sous sa tutelle. En tout cas, l'INAO, elle est née d'abord sous la férule du vin. C'est le vin d'abord qui a présidé à la création de l'INAO, suite à différentes crises au début du XXe siècle, en 1905-1919, et aussi sous l'impulsion d'un directeur, d'une personne assez charismatique qui s'appelle Gabriel Vincent Ernest Leroy de Boiseau Marié, dit Baron Leroy, qui était assez ami avec un ancien ministre de l'Agriculture qui s'appelle Joseph Capu. Et à eux deux, ils sont partis pour créer l'INAO, donc officiellement en 1935. Et l'INAO a pour rôle d'accompagner les producteurs dans les démarches de qualité et globalement dans tous les signes d'identification d'origine de la qualité pour les produits qui sont donc fabriqués en France. Après, donc les différents sigles et appellations, on les connaît, c'est AOC, AOP pour l'Europe, hein, AOC c'est français, AOP c'est pour les produits au niveau de l'Union européenne, IGP, mais également STG,
ça c'est IGP, indication géographique protégée.
Voilà. STG, c'est pour les spécialités traditionnelles garanties, mais il y a également aussi maintenant le label agriculture biologique et les labels rouges.
Juste sur la création, quel est le contexte? Donc les années 30, 1935, on est dans une période où en gros le vin, on le produit partout en France.
comme on veut. Le phylloxéra est passé, on est déjà dans l'ère post-phylloxérique, donc le vignoble se relève de ça, mais on est dans une phase de surproduction en fait.
De surproduction, et beaucoup d'intervenants produisent d'abord des vins de faible qualité, et beaucoup de vignerons n'arrivent pas à vivre de ce volume. Donc c'est une volonté d'introduire de la qualité dans le monde viticole.
On va revenir sur le fonctionnement, Marie Guittard, sur cet aspect très rapide, l'historique. Vous retrouvez l'organisation que vous dirigez, d'abord tournée vers la montée en qualité et limiter la surproduction au tout début pour améliorer un petit peu les vins et la vie des agriculteurs.
C'est tout à fait cela, et je suis tout à fait, je partage l'historique hein, que vous venez de présenter, sachant que après le phylloxéra, il y a eu effectivement une production viticole, mais une production viticole qui faisait l'objet de beaucoup de pratiques frauduleuses. Et quand on a réencépagé pour reproduire à nouveau du vin, il y a eu quand même des démarches qui ont été tentées avant de créer l'INAO, des démarches d'ordre législatif, et puis il y a des tribunaux qui ont été saisis pour que ils délimitent les zones de production de certains grands vins. Parce que comme il n'y avait plus du tout de réglementation, n'importe qui faisait n'importe quoi. Et il y a eu des tribunaux qui ont en quelque sorte délimité les zones, mais on s'est vite aperçu que une zone, c'était bien, mais qu'il fallait quand même qu'il y ait autre chose qui définisse le produit. Et donc c'est là qu'il y a eu cette idée géniale en 1935, que les professionnels qui étaient intéressés par ces démarches de qualité n'aient pas recours à des procédures judiciaires, à des procédures législatives, mais entre eux proposent des conditions de production qui ne leur seraient pas imposées, mais qui seraient validées par les pouvoirs publics. C'est-à-dire que un groupe de producteurs se met d'accord de manière volontaire pour respecter des conditions de production. Et c'est ce qui est, tout à fait particulier dans le fonctionnement de l'INAO, c'est qu'une fois qu'on a des professionnels qui se sont mis d'accord, à ce moment-là, c'est le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Économie et des Finances qui valident ce cahier des charges, qui est donc la somme d'une zone de production et de conditions de production, et qui réserve, et c'est toute l'importance du P de protéger, qui réserve aux producteurs qui sont dans cette zone et qui respectent les conditions de production, la possibilité d'utiliser le nom géographique dont il est question. Donc ça veut dire qu'il faut quand même que ce soit très solide sur le fond, parce que réserver la possibilité d'utiliser le nom Bordeaux, d'utiliser le mot Champagne, d'utiliser le mot Bourgogne à une certaine catégorie de producteurs, ça veut dire que, à contrario, par effet miroir, vous interdisez aux autres la possibilité d'utiliser ce terme. Ça veut dire quand même qu'il faut qu'il y ait des conditions de production pertinentes et que l'aire de production dans laquelle il sera possible de faire ce vin soit délimitée avec, des bases scientifiques, pédologiques, climatiques. C'est pour ça que l'on dit qu'une appellation d'origine, ce sont des hommes qui veulent protéger un savoir-faire. C'est un matériel. C'est un matériel végétal, en l'occurrence c'est un cépage, et c'est un contexte agro-pédoclimatique. Et tout ça, effectivement, ça a permis de créer de la valeur, et ça a permis aussi de lutter contre toutes les usurpations, les falsifications. C'est-à-dire que à l'INAO, nous sommes en charge de valider les cahiers des charges que proposent les producteurs. Et puis après, nous sommes en charge de les protéger contre les usurpations, contre les falsifications. Et donc, c'est en quelque sorte un dispositif qui n'existe nulle part ailleurs, qui est un dispositif à la fois volontaire, mais qui est validé par les pouvoirs publics et qui empêche les imitations. Et donc, comme on sait que, en règle générale, la mauvaise monnaie chasse la bonne, là, on fait en sorte que la mauvaise monnaie disparaisse. C'est-à-dire que nous menons à l'INAO, nous avons une capacité juridique à poursuivre devant les tribunaux les contrefacteurs au bénéfice de ceux qui se mettent en situation de justement conserver ces produits de terroir.
Comme l'utilisation de termes Chablis aux États-Unis ou Champagne en URSS, quoi.
Exactement. C'est-à-dire que on n'a d'ailleurs pas besoin d'aller ni aux États-Unis ni en URSS.
C'est difficile d'aller en URSS aujourd'hui.
Voilà, mais c'est très compliqué. Non, mais en tout cas, y compris en France,
en Russie,
nous avons effectivement réussi à valider en quelque sorte des conditions de production, des zones de production, et nous avons réussi à ce que pour le consommateur il y ait la garantie d'un produit qui ne peut pas venir d'ailleurs parce qu'on assure la traçabilité, et un produit qui a les caractéristiques qui font qu'il ne peut pas venir d'ailleurs, et en quelque sorte il y a une assurance sur l'origine du produit et les conditions dans lesquelles il a été produit.
Je pense que ce qui est intéressant dans ce que vous dites en particulier, c'est cette volonté de réunir les producteurs qui déterminent eux-mêmes leurs règles. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant, parce que beaucoup de gens s'imaginent, quand on parle de l'INAO, qu'effectivement c'est un organisme d'État qui est animé par une série de professionnels, mais de plutôt administratifs, qui vont imposer des choses aux vignerons. Et donc là, vous remettez bien les choses en perspective, de dire attention, on agit finalement que sous l'égide de professionnels du vin et d'autres, évidemment d'autres métiers.
Ce qui est vraiment très, 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 très unique, hein, c'est la gouvernance de l'INAO. L'INAO, c'est, pour simplifier, 250 professionnels qui, à titre bénévole, hein, j'insiste sur ce, mais au nom de leur expertise, sont nommés par les ministres pour justement élaborer les propositions de cahier des charges, c'est-à-dire conditions de production et zones de production. Et ce sont aussi, pour simplifier, 250 agents, ce sont les services, qui sont là pour appuyer les professionnels dans leur démarche et pour sécuriser sur le plan juridique, sur le plan aussi de la pertinence des conditions de production, sur la contrôlabilité des conditions de production dont ils veulent se doter. Les services sont en appui des professionnels. Les services en tant que tels, si vous voulez, ne sont pas à la manœuvre en termes de démarches. On accueille les démarches, les professionnels viennent nous voir en nous disant « nous avons l'intention de faire valider notre savoir-faire, notre région ». Et on les accompagne techniquement, on les accompagne juridiquement pour que leur dossier soit solide et que le lendemain de leur consécration en tant qu'appellation d'origine, il n'y ait pas 50, 100 contentieux devant les tribunaux parce que tel producteur dirait « mais moi, je conteste que telle condition de production est pertinente » ou « je conteste que mon exploitation ne soit pas dans la zone de production qui me permette d'étiqueter mes bouteilles avec le nom d'une appellation d'origine ». Donc il y a bien une gouvernance professionnelle très très forte, et ces professionnels, ils sont, j'allais dire, là au titre de leur expertise et d'une manière ou d'une autre au service du collectif, que ce soit dans le secteur de la viticulture ou dans les autres secteurs, puisque vous savez que les signes officiels de qualité ne sont pas réservés à la seule viticulture, même si la viticulture est à l'origine du concept d'appellation d'origine.
Alors, on va revenir effectivement sur le mode de fonctionnement, justement, quand des vignerons dans une appellation veulent faire évoluer leur cahier des charges, tout ça. J'ai juste une petite question, parce que vous avez, quand vous avez cité des noms de régions qui défendaient et qui étaient à l'origine de la création, vous avez cité Champagne, Bordeaux, Bourgogne. Je pense que c'est pas complètement anodin. C'est les grandes régions viticoles qui étaient déjà dans une reconnaissance de la qualité de leur vin qui ont été les moteurs de cette institutionnalisation, de la protection également de leur propriété. J'imagine qu'en 1935, c'est pas les vins du Languedoc qui se sentaient menacés par l'utilisation de leur nom, mais un peu ces trois grandes régions de départ, je me trompe ?
Ah ben, vous ne vous trompez pas du tout, parce qu'effectivement, les plus sensibles à ce concept de protection de leur nom géographique, c'est ceux qui, avant le phylloxéra, en quelque sorte, et avant cette période très, très floue hein, sur le plan de la production française, avaient une notoriété internationale déjà, et qui savaient qu'effectivement, les faussaires, ceux qui voulaient profiter de la situation, allaient plutôt, j'allais dire que c'est comme les faux monnayeurs, ils allaient plutôt faire des vins dont la notoriété était déjà assise, plutôt que des vins dont le nom n'était pas connu ni en France ni ailleurs. C'est un peu comme ceux qui font de la fausse monnaie, ils vont pas s'amuser à faire des billets de 5 euros, autant faire tant qu'à faire des billets qui valent cher. Donc, dans le monde de la viticulture, il est évident que on avait déjà une viticulture française qui était internationalement connue pour ses productions de qualité, qui étaient le fait effectivement d'une mosaïque de savoir-faire historique, d'une mosaïque de conditions climatiques particulières, de conditions géologiques particulières, et surtout d'une imbrication très très forte entre le savoir-faire humain, ces fameux cépages et les conditions dans lesquelles on pouvait obtenir de ces cépages le meilleur en termes de maturité et en matière d'arôme.
Ce qu'on appelle le terroir maintenant, en fait.
Exactement, c'est ce qu'on appelle le terroir. Le terroir étant, alors je ne vais pas vous donner la définition scientifique, mais c'est un écosystème qui fait intervenir trois piliers. L'homme, la plante ou l'animal, hein, puisqu'on a aussi des appellations d'origine dans le monde animal, et le contexte très particulier qui fait que ce n'est pas reproductible ailleurs. C'est à la fois simple et complexe parce que dans justement l'accompagnement que l'on fait des producteurs, il faut à chaque fois que dans leur cahier des charges, ils explicitent le savoir-faire et, en quelque sorte, ils ne mettent que ce qui va créer la typicité du produit.
Prenons cette question du cahier des charges. On sait que les vignerons, donc dans les appellations, quand il y a une appellation qui existe, ils partent d'un cahier des charges. Parfois, ils veulent le faire évoluer. Parfois, ils veulent qu'une région soit reconnue en cru. Donc, s'élève d'un niveau, si on peut dire, dans la hiérarchie des appellations, d'avoir le droit de mettre le nom de la commune sur l'étiquette. Comment débute cette démarche? Combien de temps elle prend? Comment ça se passe concrètement?
Alors, concrètement, c'est une... Comment dire nous avons... un groupe de producteurs qui est regroupé dans ce qu'on appelle un organisme de défense et de gestion. C'est-à-dire que...
L'ODG qu'on retrouve dans toutes les appellations, oui.
Exactement, les fameux ODG. Alors, j'essayais de ne pas utiliser trop de...
Vous avez raison, vous l'avez explicité, c'est encore mieux, bien, merci.
Vous m'y poussez, là, hein. Bon. Mais par contre, si j'en emploie trop, vous me le direz. Et donc, c'est une démarche qui se traduit par j'allais dire, déjà, soit on est sur une modification du cahier des charges, soit on est, comme vous le dites, sur l'individualisation d'un petit secteur dans une zone plus grande, petit secteur qui, au fur et à mesure des années, s'est aperçu que il y avait là une pépite, qu'il y avait quelque chose qui pouvait être de nature, c'est-à-dire particulière dans un ensemble plus vaste. Et à ce moment-là, en règle générale, ça se traduit par des demandes de modification du cahier des charges ou de restriction du cahier des charges par rapport à ce qui existe. Et ils rédigent un projet dans lequel, par exemple, ils vont prévoir des conditions d'encépagement particulières, ils vont prévoir des conditions de technique culturelle particulières, de vendange particulières, je parle du secteur du vin. Et donc, ils vont arriver devant l'INAO avec un projet. Et à ce moment-là, ce projet va être travaillé avec les services. On va regarder la pertinence de technique du dossier. Et au terme de cette expertise technique, il va être soumis à un comité national. Le dossier va être soumis aux professionnels. Et les professionnels vont mandater ce qu'on appelle une commission d'enquête, c'est-à-dire que quelques membres du comité national, en règle générale, ils sont 3 ou ils sont 4, vont aller sur place à la rencontre des porteurs de projets et vont en quelque sorte faire de la maïeutique, c'est-à-dire qu'ils vont les challenger sur les raisons qui les conduisent à penser que s'ils améliorent telle condition de production, s'ils modifient telle condition de production, alors effectivement va émerger soit un nouveau produit qui mérite une identité particulière, soit que l'évolution de leur cahier des charges va permettre d'encore améliorer la typicité du produit. Mais maintenant, il faut le dire, mais on vient peut-être sur la deuxième partie de votre demande. Les demandes de modification des cahiers des charges interviennent aussi pour répondre à des nouveaux questionnements.
On va y venir, oui, effectivement, à l'évolution de l'environnement.
Sur la demande justement d'un groupe de producteurs, j'ai en tête un coin du Beaujolais là qui s'appelle Lantigné, dont on entend beaucoup dire que ils ont une volonté d'aller demander une appellation spécifique. C'est quel type de délai on peut espérer entre le moment justement où ces producteurs commencent à réfléchir à leur cahier des charges et celui où il peut aboutir?
Alors, je sais que vous devez attendre une réponse conforme.
Pas une précision au jour près, hein, je vous rassure.
Non, mais je ne vous la donnerai pas. Mais par contre, ça peut. Alors, selon la complétude et puis le bien fondé de la demande, ça peut s'étaler entre. Alors, disons 2 ans et 3 ans, c'est à peu près le délai dans lequel nous arrivons en quelque sorte à mobiliser nos services, à mobiliser les instances, à faire qu'il y ait ce déplacement de la commission d'enquête, que nous ayons aussi procédé à ce qu'on appelle la période nationale d'opposition, c'est-à-dire une période de 2 mois pendant laquelle il y a une publication au journal officiel du projet de cahier des charges et pendant laquelle tout opérateur qui voudrait faire une observation ou qui voudrait formuler une opposition peut le faire. Donc,
c'est le recours des tiers.
Comme un permis de construire.
C'est les recours des tiers pour un permis de construire en quelque sorte. Exactement. Si les voisins ont quelque chose à dire, ils lèvent la main.
Alors les voisins et pas que les voisins.
Oui, j'entends bien.
Et donc on a un délai qui est, je vous dis, entre 2 et 3 ans. Ça peut aller plus vite, mais c'est quand même très exceptionnel, sachant qu'après cette instruction nationale, il y a un enregistrement du nouveau cahier des charges au niveau de Bruxelles. Et au niveau de Bruxelles, quel est l'intérêt? C'est que à partir du moment où vous avez une appellation d'origine protégée qui est enregistrée à Bruxelles, ça veut dire que tous les pays de l'Union européenne doivent protéger cette appellation contre les usurpations et les falsifications, comme si c'était une appellation de chez eux. Ça veut dire que, par exemple, une appellation Bordeaux, elle est protégée contre les contrefaçons en France, hein, et elle est aussi protégée en Italie, elle est aussi protégée en Belgique. Donc, l'enregistrement européen, là aussi, il y a une pratique de contrôle de la validité des modifications ou du cahier des charges qui prend quelques semaines ou quelques mois. Le tout effectivement, étant pas pour ralentir coûte que coûte les démarches des professionnels, mais pour qu'au contraire, il y ait une sécurité juridique très forte des opérateurs qui font l'effort de se doter de conditions de production très restrictives, et à la clé, il y a des coûts de production, hein, et qui en attendent une valorisation. Il faut que tout ça se soit quand même pas fait, à la va-vite, parce qu'il n'y a rien de pire, effectivement, que de générer des procédures contentieuses, les coûts qui vont avec, et l'insécurité juridique pour les opérateurs. Hein.
Et rétrospectivement, là, typiquement, sur l'appellation patrimoniaux, j'ai vu passer un article selon lequel le cahier des charges avait été modifié pour justement interdire les désherbants chimiques. Ça, c'est des choses qui vont beaucoup plus vite, ou c'est un peu le même type de délai pour un changement de cahier des charges?
Alors là, on est sur quelque chose qui est assez nouveau, hein, puisque... le monde de la viticulture, comme toute l'agriculture française d'ailleurs, est confronté à une attente sociétale forte de respect de l'environnement. Et historiquement, les cahiers des charges des appellations d'origine contenaient des dispositions qui n'avaient trait qu'à la typicité du produit. Mais depuis maintenant plus d'une décennie, les viticulteurs ont bien senti qu'il fallait aussi qu'ils s'inscrivent dans la transition écologique et qu'ils amendent, ils complètent leur cahier des charges avec des dispositions plus respectueuses de l'environnement et qui soient aussi des dispositions dont ils puissent faire état vis-à-vis du consommateur. Donc, ils ont été nombreux à vouloir introduire des dispositions de type agroécologique, des dispositions agro-environnementales dans leur cahier des charges. Et donc, nous les accompagnons également dans cette démarche et nous avons élaboré plusieurs mesures qui nous semblent de nature à pouvoir être adoptées par la très très grande majorité des appellations d'origine. Et donc là, pour autant que l'appellation adopte une des mesures qui a été reconnue comme pertinente, l'instruction va beaucoup plus vite.
D'accord. Marie Guittard, on va faire non pas une pause, mais si un petit peu une pause. Une parenthèse. On va continuer notre conversation, mais on va boire un vin parce que c'est l'habitude dans cette émission. Alors vous n'êtes pas avec nous en studio, donc malheureusement on va pas pouvoir le partager. Mais c'est notre ami Laurent qui a rapporté quelque chose de Chinon. Et donc c'est
là,
un.
Je suis supposé en parler.
C'est un Cabernet Franc.
Oui, effectivement, appellation d'origine protégée.
On a pris un vin d'appellation.
Chinon rouge.
Ah oui, alors attendez la suite, hein, parce qu'après on en a un qui n'est pas d'appellation, je vous rassure. Ça nous permettra d'en parler.
Donc effectivement, j'étais ce week-end à Chinon. J'ai honoré l'invitation d'une vigneronne avec laquelle je travaille depuis un an à peu près, qui s'appelle Martine Budet, et donc qui est vigneronne au Clos Lanniverdière. Et on a devant nous un chinon, une cuvée qui s'appelle Palimpseste. Donc, pour les érudits, qu'est-ce qu'un palimpseste ?
C'est pas les mots qui se disent dans un sens et dans l'autre ?
Non.
C'est un palindrome, ça.
Ah ouais. Oui, voilà, c'est ça.
Non, on est sur un parchemin dont on a effacé la première écriture pour pouvoir écrire un nouveau texte. C'est une espèce de nouvelle histoire. C'est un peu la symbolique de l'histoire de Martine, justement, qui s'est lancée ou relancée dans le métier de vigneronne en indépendante. Et qui, à mon sens, fait des chinons avec un toucher assez remarquable, qui peuvent, on va dire, séduire les plus réfractaires au cabernet franc. Merci Patrice, parce que c'est un peu comme ça que je le ressens quand j'ai découvert ces vins. Donc là, on est sur son millésime 2018 de sa cuvée Palimpseste.
Qui est, ma foi,
donc je vous laisse peut-être commenter parce que
non, mais la promesse est tenue, c'est vrai, c'est très rond, c'est très gourmand, on n'a pas du tout le côté végétal de bourgeon cassis, poivron vert du cabernet.
Pour autant, enfin moi qui suis pas très fort en identification de cépages, j'ai l'impression qu'on reconnaît quand même d'emblée un cabernet franc.
Ben, en fait, on l'espère un peu parce que
oui.
La typicité de l'appellation. Mmh. Sinon, tu as du mal à le faire homologuer. Hein.
Donc elle efface un peu les marqueurs négatifs, entre guillemets, qu'on pourrait craindre sur ce genre de vin, ouais, mais...
Elle atteint un niveau de maturité sur ses raisins qui permettent effectivement de gommer le côté très végétal. Les tanins, je trouve, ne sont pas du tout rustiques comme ça peut arriver, malheureusement, dans certains cabernets francs qui sont pas super bien travaillés, ou que le vigneron préfère travailler comme ça aussi. Hein. Il faut savoir que, heureusement, on n'a pas tous les mêmes attentes en buvant du vin. Hein. Donc là, on a quelque chose de très très souple, très très doux.
Très doux, puis une certaine maturité. Il y a presque du fruit noir, moi je trouve, ce qui est du fruit rouge et presque du fruit rouge, ce qui est assez rare sur les cabernets. Et donc Chinon fait partie des 375 AOC, AOP de France dans le monde du vin. Et je crois Marie-Guitard nous confirmera, mais c'est les trois quarts, voire 80% des AOP AOC françaises sont encore dans le domaine viticole. C'est bien dans les grands chiffres.
Ouais. Tout à fait. On a, d'un côté, on a 360 environ, hein, 360 appellations d'origine viticole, et nous en avons 101 non viticoles.
Oui, pour les fromages notamment.
50 produits laitiers.
Ouais.
17 AOC de spiritueux et 5 de cidre et de poiré. J'ai les chiffres sous les yeux, hein, j'ai aucun mérite.
Alors,
Marie-Guitard, on est en train de déguster un vin. J'ai quand même une question un peu personnelle à vous poser. Est-ce que vous, à titre personnel, vous êtes amatrice de vin ?
Tout à fait. Et j'aime bien les commentaires que vous avez faits tout à l'heure parce que ça peut servir d'explication apporter une réponse à ceux qui pourraient considérer que l'appellation d'origine peut être à l'origine d'une standardisation d'un type de vin, par exemple, issu d'une région donnée. Et ce que vous dites est très intéressant parce que ça veut dire que finalement, les conditions de production, le cahier des charges d'une appellation, c'est plutôt comme une partition, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est commun à un ensemble de producteurs, mais qui n'empêche pas chaque producteur de se comporter comme un interprète d'une partition musicale.
Mmh. Il y en a qui sont plus ou moins virtuoses.
Ouais. Voilà. Par contre, ça garantit l'air de famille d'un groupe de vins. Et ce qui est très intéressant, je pense, pour les consommateurs, c'est qu'ils peuvent, au fur et à mesure de leur dégustation, choisir parmi les grands vignobles, et puis ensuite au sein d'un vignoble, trouver effectivement le vigneron ou la vigneronne qui va avoir travaillé de manière très personnelle et finalement élaborer ce que un consommateur va privilégier. Et alors qu'un autre consommateur va aller chercher dans cette même famille un producteur qui va avoir donné une autre tonalité dominante, mais toujours, je pense, avec la garantie d'un à la fois d'une origine de ce produit, d'une justification du prix qu'il paie cette bouteille, et puis de l'implication des producteurs qui, contrairement à d'autres démarches qui leur sont imposées par la grande distribution, qui leur sont imposées par des négociants, se sont eux-mêmes donné ces règles parce que, justement, ils voulaient sauver un produit de la banalisation et de leur disparition dans certains cas. Hein. Parce que vous le savez, très souvent, nos vignobles en France, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, sont dans des zones où on ne pourrait pas gagner sa vie en faisant des grandes productions comme du blé ou de l'orge. Et donc, on est là dans quelque chose qui va permettre non seulement à des producteurs de gagner leur vie, mais aussi à des consommateurs d'avoir une palette d'offres et puis d'avoir maintenu une activité agricole dans des zones qui n'étaient pas favorisées pour, j'allais dire, lutter sur les marchés mondiaux avec uniquement toujours des coûts plus bas, toujours des coûts plus bas. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que l'INAO est un établissement sous tutelle du ministère de l'Agriculture, un établissement qui est là avant tout pour créer des conditions de rémunération des producteurs, aussi pour créer de la variété dans l'offre qui est là pour les consommateurs, et puis aménager le territoire, maintenir l'agriculture avec tout ce que ça a derrière, en matière d'artisanat, en matière de tourisme, en matière de restauration. Donc on est là sur un outil, l'appellation d'origine, qui est vraiment gagnant-gagnant. Gagnant pour le producteur, gagnant pour le consommateur, et gagnant pour le citoyen quelque part, parce qu'on a maintenu l'agriculture là où peut-être il n'y en aurait plus.
Le système des AOC a globalement été un succès, puisque d'abord en 1990, le succès de la filière viticole a fait qu'on a généralisé le système des AOC aux autres productions, hein, qu'elles soient fromagères, de viande ou les fruits. Oui. Et puis c'est aussi un levier économique, puisque je sais pas les chiffres les plus actuels, mais je crois que 50% de la production viticole est en AOC aujourd'hui, et ça génère un chiffre d'affaires de 12 à 13 milliards. Donc
c'est 80% du chiffre d'affaires de la filière.
Exactement. Ouais, c'est donc ça a été en tout cas effectivement un levier économique aussi pour les producteurs et les viticulteurs.
Marie-Guitare, vous avez répondu tout à l'heure sur le délai. En gros, en 2-3 ans, des modifications de cahier des charges, des choses peuvent être étudiées. Ça, c'est quand tout se passe bien, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'aller-retour, de modifications. Parce que souvent, quand nous, on discute avec des vignerons, ils nous disent, je prends un cas, on parle avec les gens de, il me semble que c'était Rasto, on leur dit, mais vous faites des vins blancs magnifiques, est-ce que vous n'avez pas envie de les labelliser, de les faire entrer dans l'appellation, parce que je crois qu'à Rasto on ne fait que des vins rouges, hein, dans le cadre de l'appellation. Et la réponse spontanément, c'est oh là là, tu te rends pas compte, c'est un travail de 10 ans. Il faut prendre son bâton de pèlerin, et puis ça va, voilà, dans 10 ans on l'aura. Et d'ailleurs, on avait fait une émission sur vin sobre, qui, quand il a eu son cru, je crois qu'effectivement c'était une démarche qui relevait de l'ordre de presque une dizaine d'années. Est-ce que Comment vous percevez ça, cette attente pour peut-être une réactivité plus grande? Et puis ça va nous emmener sur le terrain du changement climatique, mais ne serait-ce que le fait de, quand une intention est affirmée dans une appellation, de se dire, ok, on a envie de le faire, on le fait, du moment que c'est pas n'importe quoi, hein, mais entre nous, faire des magnifiques blancs à Rasto, c'est pas n'importe quoi, a priori. Ils vont le faire avec des cépages du coin, ils vont pas vous demander de mettre du chardonnay. Alors, je vais pas faire un focus sur Rasto, mais je pense que ce type de problématique existe un peu partout. Est-ce que vous entendez cette demande, avec toutes les mesures que vous avez données, hein, évidemment, il faut pas faire n'importe quoi, pas le faire en claquant des doigts, mais cette demande d'une plus grande réactivité de l'institution?
Oh, tout à fait. C'est un peu comme à la SNCF où on entend parler que des trains qui arrivent en retard. Hein. Mmh. Le système ne fonctionne que parce que globalement, très majoritairement, le rythme auquel on traite les dossiers est tout à fait conforme, c'est-à-dire aux besoins sérieux de l'examen de la demande. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas des cas particuliers ou qui jouent de malchance ou qui effectivement se heurtent à des oppositions fortes au sein du comité national. Mmh. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire, mais autant nous avons besoin de ne pas confondre vitesse et précipitation, autant je pense que par rapport à ce qu'étaient les délais il y a quelques décennies, et tout en conservant la sécurité, nous avons quand même très, très, enfin, vraiment, et c'était avant que je n'arrive, donc je m'approprie pas ce résultat, je pense qu'on a quand même fluidifié les dispositions, et surtout que on a maintenant des comités qui effectivement sont, à dire, très conscients du fait que, et on va y venir, il y a une forme d'urgence à répondre à des attentes sociétales comme celle de protection de l'environnement. Il y a urgence à répondre ce que j'appelle moi le dérèglement climatique et non pas le réchauffement, parce que le réchauffement a toujours un petit côté sympathique pour ceux qui attendent qu'on bronze plus facilement sur les plages normandes. Tout le monde est conscient qu'il va falloir effectivement changer de braquet.
Alors, parlons-en. Qu'est-ce que l'INAO met en, peut-être comme moyen supplémentaire pour faire face à cette urgence? Parce que effectivement,
on a rencontré, j'ai fait tous les vignerons qu'on a rencontrés, ils nous disent depuis 10 ans, c'est de plus en plus compliqué parce que, ben voilà, on a plus de pluie, on a des orages. Avant, on avait un épisode de gel tous les 10 ans. On a maintenant du gel tous les ans, tous les 2 ans, voire tous les ans. C'est vrai que, enfin, le sentiment global, hein, c'est qu'il y a, malheureusement, il y a une accélération, on va dire, des phénomènes difficiles, complexes, et que, voilà, encore une fois, l'INAO, et vous n'êtes pas les seuls, bien sûr, engagés et responsables de ça, mais ne va pas à la même vitesse que, malheureusement, les dérèglements, quoi, ou les problèmes.
Alors, les dérèglements et les problèmes sont effectivement présents. Le vrai sujet, c'est qu'on change de paradigme. C'est-à-dire que l'appellation d'origine, ça consacre ce qu'on appelle des usages locaux, loyaux et constants. C'est-à-dire que c'est un concept, l'appellation d'origine, qui s'inscrit dans un écosystème extrêmement stable, qui a été conçu à un moment donné où on ne parlait pas du tout de changement climatique, ni de réchauffement, ni de dérèglement climatique. Et donc, l'idée, c'est qu'on ne changeait pas un cahier des charges tous les matins, puisque, au contraire, dans ces cahiers des charges, on consolidait des pratiques historiques, ancestrales, qui étaient la consécration du savoir-faire transmis par des générations. Et là, le changement de paradigme, c'est que on se retrouve avec des pratiques qui sont confrontées à un bouleversement de leur environnement et de leur écosystème, et qui, en quelque sorte, sont obligées de réagir, mais avec une plante qui n'est pas annuelle. C'est-à-dire que une vigne, ça se plante pour entre 30 et 50 ans. Il faut que la survie économique de l'exploitation soit quand même garantie, et il ne faut pas que l'on fasse n'importe quoi. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons introduit la possibilité de modifier les cépages qui produisent les différentes appellations, mais pour l'instant à dose homéopathique, c'est-à-dire que chaque viticulteur, une fois que globalement le fameux organisme de défense et de gestion s'est mis d'accord sur une demande pour élargir à des nouveaux cépages les possibilités des vignerons dans une région donnée est actée, chaque vigneron peut complanter sa vigne, ses terres, avec 5% de nouveaux cépages. Alors, des nouveaux cépages qui ont effectivement des caractéristiques différentes de ceux qui étaient dans le l'encépagement traditionnel. Et à ce 5%, qui est une limite en termes de surface, on a mis un deuxième plafond qui est celui de 10% de la présence dans une cuvée donnée des moûts, c'est-à-dire de la vendange, issus de ces nouveaux cépages. De manière à ce que, si effectivement ça ne pose pas de problème, on puisse le mesurer dans le temps et puis globalement, peut-être avec aussi les années, augmenter ses possibilités. Ou si ça pose problème, eh bien, abandonner la diversité qui a été proposée sans avoir tout détruit, c'est-à-dire sans avoir pris le risque que des vignerons basculent dans des nouveaux cépages et se retrouvent avec des vins qui ne donnent pas satisfaction aux consommateurs et ne répondent plus à cette ère de famille dont je vous parlais.
Donc, ça veut dire que les 5% dont vous parlez, ça ne demande pas une modification du cahier des charges?
Alors, ça demande que le cahier des charges soit modifié pour que, à la liste initiale des cépages qui sont historiquement autorisés pour une appellation, soit ajoutés quelques cépages complémentaires qui, eux, pourront donc être plantés uniquement dans la limite de 5% dans chaque exploitation et mélangés à hauteur de 10% dans les cuvées.
Récemment, dans le Bordelais, on a donc autorisé, il me semble, de nouveaux cépages, notamment des cépages qui viennent plus du Portugal ou d'Espagne, comme pour expérience. Mais j'ai l'impression que ça suscite quand même pas mal d'émoi, et notamment par rapport à ceux qui seraient plutôt des défenseurs de cépages oubliés dans le Bordelais. Comment se positionne l'INAO sur ce clivage? Parce que quelque part, est-ce qu'il vaut mieux défendre des vieux cépages locaux plutôt que d'introduire des cépages qui viennent d'ailleurs,
quoi. Tu peux ajouter dans ce débat les cépages résistants.
Oui.
Alors, on demande toujours à avoir en quelque sorte une justification technique et une justification empirique de l'adaptation du vignoble ou des cépages qui sont susceptibles d'être introduits. Et donc, préalablement à l'autorisation d'étendre les possibilités, il y a une expertise qui est conduite, sachant que il faut aussi qu'il y ait que ce matériel végétal soit disponible. C'est-à-dire que quand vous avez par exemple un cépage oublié, on ne décrète pas de sa multiplication du jour au lendemain.
C'est clair.
Et finalement, ce serait un leurre que d'ouvrir une possibilité qui concrètement ne se traduirait pas pour les vignerons par la capacité à acheter les cépages correspondants. En règle générale, quand on va chercher des cépages qui sont produits ou utilisés ailleurs, on va les chercher pour des caractéristiques qui sont connues, que les empélographes connaissent, que les œnologues connaissent, c'est-à-dire par exemple la résistance à la sécheresse ou des résistances à la dessiccation. Enfin, donc on a quand même, c'est-à-dire en France, une expertise très très forte sur les cépages qui existent et qui sont utilisés par exemple en Italie, en Espagne ou au Portugal. Où, évidemment, depuis quelques décennies, et peut-être même depuis quelques centenaires, ils ont des conditions climatiques qui sont plus méridionales que les nôtres.
Justement, cette expertise dont vous parlez, est-ce qu'il entre dans le rôle de l'INAO d'avoir un travail un peu en amont, proactif, pour accompagner les appellations, justement, les orienter, les aider pour justement faire face à ces nouveaux défis? Parce qu'on est en train de se dire que comme vous le disiez, le paradigme a complètement changé. Il s'agissait d'inscrire et d'ancrer des savoir-faire centenaires dans le marbre pour les protéger. Et on est en train de vivre un bouleversement à une vitesse extrêmement rapide.
Ce qui est constant, c'est l'inconstance, en fait, maintenant.
Ouais, exactement. On entre dans une zone de turbulence grande. Il s'agit effectivement de pas faire n'importe quoi, mais pourtant il s'agit de bouger. Est-ce que l'INAO se donne le rôle, et peut-être ne l'a-t-il pas, et que c'est le ministère de l'Agriculture qui lui donne pas assez de moyens, mais d'accompagner en amont sur cette réflexion, sur région par région, quelles seraient les bonnes idées, les bonnes stratégies en matière de cépage, choisir tel cépage oublié parce qu'il a telle qualité. On sait bien que dans les appellations, il y a énormément d'énergie, de volonté, il n'y a pas forcément énormément de moyens pour adresser ces problématiques, par exemple, du point de vue scientifique. Est-ce que l'INAO joue ce rôle-là ou a l'intention de le jouer face au grand bouleversement qu'on est en train de vivre?
Alors, l'INAO n'est pas seule au monde et l'INAO n'a pas toutes les compétences requises pour les raccompagner sur le plan de la connaissance de la physiologie des cépages. Par contre, on s'appuie beaucoup sur les travaux réalisés par l'INRAE. Mmh.
C'est plus du ressort de l'INRAE, en fait.
Alors,
ce travail en amont.
Voilà, le travail en amont. On a aussi des instituts techniques, hein, comme l'Institut français de la vigne et du vin. On a aussi des interprofessions régionales qui travaillent, qui ont qui mènent des expérimentations, hein, collectives. Donc, nous, en quelque sorte, on n'a pas ni la force de frappe, ni la compétence. Et par ailleurs, elle existe dans des organismes publics comme l'INRAE ou privés comme les interprofessions type Inter-Rhône, interprofession des vins de Bordeaux, interprofession des vins de Bourgogne, interprofession des vins de Loire, qui eux, effectivement, et financent d'ailleurs des dispositifs d'expérimentation. Hein. On n'a pas la volonté de remplacer tout le monde. Mmh. En quelque sorte, les vignerons ont plusieurs interlocuteurs et nous, on est là en quelque sorte pour valider des travaux à caractère scientifique et technique et à mettre les conditions qui vont pas compromettre la viabilité économique du dispositif si par malheur il s'avérait que malgré toutes les précautions qui ont été prises, eh bien dans 15 ans ou dans 8 ans ou dans 20 ans tel cépage auquel on avait pensé n'apparaît pas comme la solution à maintenir pour l'adaptation au changement climatique.
Concrètement, les moyens mis en œuvre, j'entends bien que vous n'êtes pas les seuls dans l'affaire, mais si on se place du point de vue des appellations, des vignerons, est-ce que ce n'est pas compliqué encore le tableau que justement, comme vous dites, d'avoir autant d'interlocuteurs, ceux auprès desquels on recherche, ensuite ceux auprès desquels on va faire valider la démarche. Et est-ce que, et c'est pas une critique dans ma voix, hein, c'est juste une recherche de projection, est-ce que vous pensez que les moyens sont à la hauteur des enjeux, que ce soit de votre côté ou du côté de cette partie scientifique de recherche, et donc plus généralement du point de vue du ministère de l'Agriculture et de l'Europe, pour aider? On parle de la filière vin, évidemment, toutes les autres filières sont concernées, mais sur le vin, pour aider cette adaptation. On a le sentiment, quand on voit les vignerons, ils ne sont pas désemparés, parce que les vignerons et les vigneronnes sont habitués à se retrousser les manches. Mais quand même, ils voient arriver un mur, et ils ne sont pas sûrs d'avoir les clés et les moyens de prendre les bonnes décisions pour l'éviter.
Alors, à la fois, ce que vous dites, je l'entends. Par contre, la profession viticole est pas née de la dernière pluie. La profession viticole a toujours été extrêmement organisée, que ce soit au niveau local, au niveau régional ou au niveau national. Et ils n'ont pas, comment dire, ils ne sont pas restés sans rien faire, puisque ils ont élaboré avec les pouvoirs publics une stratégie nationale d'adaptation au changement climatique qui a été présentée donc au ministre de l'Agriculture, qui est un travail partagé avec l'INRAE, justement, avec l'Institut français de la vigne et du vin, avec l'INAO, et qui liste tous les paramètres sur lesquels on va pouvoir jouer pour que non seulement on puisse continuer à produire du Bordeaux à Bordeaux, du Bourgogne en Bourgogne, des Côtes-du-Rhône en Côtes-du-Rhône, mais que on le fasse de la manière la plus, comment dire, progressive, étayée possible. Et donc ça aboutit à prévoir beaucoup d'actions qui sont d'ordre différent. Par exemple, ils ont souhaité qu'on travaille sur les conditions de production, voir comment on pouvait notamment travailler sur la gestion de l'eau, développer ce qu'on appelle les stratégies sèches. Comment on pouvait aussi, dans les caves, par exemple, recycler l'eau. Quelles sont les nouvelles pratiques œnologiques auxquelles il faudrait avoir recours. Ils ont fait le tour à 360 degrés de tout ce qui pouvait être, en quelque sorte, conjugué et modifié sous la houlette de l'INRA, de l'IFV, de l'INAO et de tous les centres techniques. Et donc là, on est sur un travail qui est vraiment collectif et qui, dans les semaines, les mois qui viennent et sans doute les années qui viennent, vont permettre de manière collective de faire évoluer les conditions de production, mais pas seulement dans le vignoble, mais aussi dans les caves.
Merci beaucoup Marie Guittard. On a déjà parlé longtemps. Avant de se quitter, nous on a ouvert une deuxième bouteille de vin. Bon, c'est un peu un clin d'œil. Je pense que je me sentais obligé de le faire. On a ouvert un vin qui est un vin d'un vigneron ardéchois qui s'appelle Hervé Souhaud et du domaine Romano d'Estese. Mes camarades vont en dire un mot tout de suite. Moi, c'est un vin que je trouve magnifique. Et il s'agit là d'un vigneron qui choisit de faire des vins dans l'appellation vin de France. Ça veut dire qu'il s'affranchit du domaine des appellations. On sait bien que c'est une pratique chez certains vignerons. Il y a pas mal d'endroits comme ça où le meilleur vigneron de la région, en fait, le meilleur, c'est Laurent à ma droite fait des grands yeux.
Je suis toujours un petit peu sceptique
quel
sur la notion du meilleur.
Ce concept de meilleur, mais parmi les vignerons très réputés, évidemment, la plupart sont dans les appellations, mais certains s'écartent de l'appellation, choisissent d'avoir une démarche plus, entre guillemets, libre, de faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est ce que permet justement l'appellation. Je ne sais pas si on doit appeler ça une appellation, l'appellation vin de France. Quel regard vous portez sur cette tendance? Certains disent que c'est le côté carcan des appellations qui va faire que beaucoup de vignerons vont être tentés, une fois qu'ils ont une certaine notoriété, parce que là, on parle d'un vin qui est quand même, malgré le fait qu'il est vin de France, il est vendu à plus de 20 € la bouteille, il est dans des très bonnes tables. Quel regard portez-vous en tant qu'institution? Je peux vous poser la question à titre personnel, mais en tant qu'institution, sur cette pratique, est-ce que vous comprenez justement ces vignerons qui s'affranchissent de ces règles?
Je comprends qu'à partir du moment où on vit des conditions de production comme un carcan, il faut mieux le quitter d'avoir le sentiment d'être brimé dans l'expression de son métier de vigneron.
Vous voyez pas ça comme un risque?
Ah non, pas du tout. Je vois pas ça comme un risque parce que les appellations d'origine sont installées dans le paysage les appellations d'origine constituent un outil qui permet de protéger. Quand vous faites du vin de France et que vous avez quelqu'un qui, par exemple, utilise votre nom pour faire quelque chose de très très différent, qui effectivement peut être tenté de vendre à 19 euros au lieu de 20 euros quelque chose qui porte à peu près le même nom ou le même nom, là, je pense qu'il y a un grand moment de solitude et notamment un grand moment aussi de solitude quand il faut aller chercher un avocat et se mettre en situation de poursuivre le contrefacteur avec des moyens qui n'ont rien à voir avec les moyens dont nous disposons en tant qu'établissement public. Et donc, c'est une aventure. Je comprends très bien que certains ne vivent pas le cahier des charges, comme le disait le fameux baron Leroy, comme un cahier des chances. Mais ils le vivent comme un carcan, donc il est inéluctable qu'à un moment donné, ils aillent voir ailleurs. Mais je pense que le concept d'appellation et ses attributs, hein, c'est-à-dire la protection par les pouvoirs publics, reste un atout majeur et surtout à la force du collectif et surtout correspond à autre chose, j'allais dire que peut-être un effet de reconnaissance passager.
Marie-Guitard, je reviens sur un point parce que effectivement cette dimension juridique de protection, c'est pas forcément quelque chose qu'on a en tête quand on parle de l'INAO et dans la plupart de nos conversations, c'est pas ce qui ressort de la part des vignerons et j'entends très bien que c'est un point essentiel. Juste pour quantifier les choses, quelle est la part, je sais pas, la quantité d'énergie au niveau de l'INAO qui est mise, peut-être que ça se traduit en nombre d'agents, par exemple, pour défendre, attaquer, faire des pourvois en justice, protéger les appellations par rapport à ce qui est l'évolution du cahier des charges. Juste comme c'est un thème qui est revenu plusieurs fois quand même dans notre conversation, et si je comprends bien, il est à l'origine, cette dimension juridique est à l'origine de la création de l'Institut. Quelle est la part de oui, j'ai envie de dire, d'énergie qui est déployée dans ce sens-là?
Alors, en termes d'effectifs, je dirais que sur la défense, hein, c'est-à-dire les lettres que nous adressons à tous les utilisateurs de marques qui ont tendance à avoir beaucoup d'imagination, par exemple pour écrire Bordeaux, B-O-R-D-O, oui. Nous écrivons plusieurs milliers de lettres par an à des déposants, leur demandant de bien vouloir cesser. 9 fois sur 10, ils arrêtent. Quand ils n'arrêtent pas, on va devant les tribunaux. Nous avons aussi plusieurs centaines par an de lettres que nous adressons à l'Institut national de la propriété intellectuelle qui est chargé de l'enregistrement des marques. Et on lui demande de ne pas enregistrer telle marque parce que effectivement elle contrevient à la protection d'un nom d'une appellation d'origine. Nous avons un réseau d'avocats en France et dans le monde entier grâce auquel nous introduisons des procédures judiciaires à l'encontre des contrefacteurs. Nous allons aussi devant le Conseil d'État. Nous allons devant la Cour de justice européenne. Je dirais que sur les 250 agents, hein, on a un service juridique d'une vingtaine de personnes, mais que c'est plutôt, j'allais dire, 50 personnes, tout cumulé, qui peu ou prou, effectivement, à travers la direction, les services techniques qui interpellent justement. C'est à peu près ça. Donc c'est la protection, et d'ailleurs c'est pour ça que j'aime bien quand on parle plutôt d'appellation d'origine protégée que d'appellation d'origine contrôlée, parce que c'est parce que nous contrôlons les conditions de production, c'est parce que nous contrôlons les contrefacteurs que il y a cette protection. Et le P de protéger, souvent on me demande, mais pour protéger contre quoi ? Ben, protéger contre les usurpations, contre les contrefaçons. Et donc, pour nous, hein, en tout cas, c'est vraiment, par exemple, dans les accords bilatéraux entre l'Union européenne et les pays tiers. Nous avons toujours une liste d'appellations que nous souhaitons voir protégées dans le pays tiers, au même titre que nous les protégeons en Europe. Et donc, la protection en tant que telle est vraiment le nerf de la guerre, parce que l'idée, c'est que ce qui est rare est cher, ce qui est moins rare est moins cher, et que ce qui est contrefait est quand même tiré vers le bas, et que on peut pas lutter à armes égales avec d'un côté un cahier des charges onéreux et de l'autre des gens qui feraient n'importe quoi et surtout en matière d'étiquetage qui pourraient c'est ce qu'on appelle de la tromperie du consommateur quoi. Mais au passage qui égratignerait la notoriété de nos produits et les revenus de ceux qui y travaillent.
Merci beaucoup Marie Guittard, je pense qu'on aurait encore plein de questions, peut-être qu'on vous réinvitera si vous nous faites le plaisir d'accepter à nouveau. Il y a la question du bio, il y a ce sujet-là de la protection versus l'homologation qui laisse on peut être d'accord avec ce que vous dites. Après, la dimension protection des marques, on entend qu'elle est aussi portée par ceux qui ont le plus à défendre. Et donc, on parle moins des petits vignerons qui font face aux problèmes climatiques qu'aux grands domaines qui font face aux problèmes climatiques, mais qui font aussi face à la contrefaçon. On entend qu'il y a des priorités aussi. Après, j'entends aussi que le juridique n'est pas la seule activité et qu'il y a tout ce travail de protection et d'homologation, ce qui contredit ce mauvais mot que j'ai entendu récemment, qui est de dire à l'INAO, avant il y avait des ingénieurs agronomes, aujourd'hui il y a surtout des juristes. Vous contredisez ça, évidemment.
Ah mais il y a les deux.
Voilà.
Il y a les deux. Et heureusement qu'il y a les deux, parce que je pense que des fois les ingénieurs agronomes voient midi à leur porte, c'est-à-dire que ils trouvent que telle condition de production rédigée comme elle est va effectivement répondre à un objectif. Et le service juridique, lui, va considérer que la rédaction, elle est plutôt un nid à contentieux que de nature à résoudre le problème que les producteurs veulent résoudre.
Tout l'art est coïncider ces deux problématiques.
Donc,
alors.
En règle générale, du dialogue entre l'ODG avec les services techniques et les services juridiques, on arrive à trouver la formulation qui va permettre d'atteindre l'objectif poursuivi, qui va permettre aussi, par exemple, de contrôler si c'est bien respecté et de défendre devant les tribunaux, par exemple, et de gagner devant les tribunaux quand quelqu'un ne respecte pas cette condition de production. Donc, l'équilibre, il peut déplaire ou il peut, dans certains cas, être considéré comme trop en faveur du juridique ou du technique, mais il faut les deux. Hein. Et un jour, il n'y a pas les deux, ça risque de ne pas être au service de la viticulture et de ceux qui s'engagent dans ces démarches.
Merci beaucoup Marie Guittard, on va vous libérer. Merci du temps que vous nous avez accordé pour répondre à ces questions et bon courage pour les défis qui attendent encore l'INAO dans les années à venir. Et bon, écoutez, il n'est pas impossible qu'on vous rappelle si on a listé des questions qu'on aimerait encore poser.
Entendu, volontiers.
C'est très gentil à vous, en tout cas.
Merci pour votre disponibilité.
Au revoir, merci beaucoup.
Bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Qu'est-ce que vous pensez de ce vin ? Parce qu'on n'en a rien dit. Ah, bip, 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 ça y est, la ligne est coupée. Le vin d'Hervé Souhaut, qu'est-ce que vous en trouvez ? Je précise que je l'ai trouvé chez Envrac. Hein. C'est un vin que l'ami Laurent Le Coustumet m'a conseillé et j'avoue que depuis que je l'ai goûté, j'y reviens toujours.
À juste titre, oui, c'est très bon. C'est à la fois très gourmand, mais en même temps, il y a une acidité qui permet de pas se fatiguer, ce qui peut être le problème quand même de ce type de vin, méridionaux. Donc là, on est sur quoi comme assemblage?
Alors,
c'est un
Viognier.
Viognier et Roussanne. Il y a de la Roussanne.
Il y a de la Roussanne.
Ah, d'accord. La Roussanne aussi. D'accord. Parce que, bon, non, que Viognier, moi, je pense qu'il y a pas, il y a le côté très, très, un peu floral, exotique, mais la Roussanne apporte, je pense, l'acidité à l'assemblage.
Ah. Au vin. Je suis pas convaincu que la Roussanne, pour moi, la Roussanne, justement, enfin, on a toujours ce débat. La Roussanne ne va pas alléger ni affiner.
Ouais, mais enfin, quand elle est avec le Viognier.
Ouais.
Non, mais l'assemblage est, enfin, c'est hyper agréable, c'est hyper gourmand.
C'est très gourmand, c'est très, très, très gourmand, et en même temps, bon, c'est à 13 degrés, ça reste soft, et il y a une jolie acidité derrière, donc, ça passe super bien.
C'est tranchant, moi, j'aime beaucoup ce vin d'Hervé Souhaut, Souhaut, domaine Romano, d'Estésé. Rappelle-nous le chinon qu'on a bu, c'était Martine Budet.
Tout à fait. Le Clos Lanniverdière. Et la cuvée, donc, s'appelle Palimpseste.
Voilà. De vin différent. On peut difficilement faire des choses plus différentes.
La diversité.
Mais ont-elles un point commun? Peut-être l'authenticité.
C'est deux vins excellents et c'est très agréable à boire. C'est très, très gourmand, très équilibré.
Donc, je sais pas si elle est bio.
Si, elle travaille en bio. Oui, tout à fait. Bon, en même temps, c'est un jeune domaine. Hein, c'est un tout jeune domaine.
Et Hervé Souhaut, c'est pareil. C'est pas sur la bouteille, mais c'est, je crois, une pratique bio, voire même biodynamique de la vigne. Mais qui s'affranchit d'appellation. Qu'avez-vous pensé de notre entretien? On va pas débriefer comme ça juste après avoir raccroché, mais est-ce qu'on a les réponses à nos questions sur cette INAO? Moi, je retiens que c'est pas forcément le bon interlocuteur pour faire face aux grands défis, en fait.
En même temps, c'est pas leur rôle.
C'est ça. Non, mais c'était important de le dire. On peut les accabler de tous les reproches si c'est pas leur rôle.
Voilà. Après, moi, je reste convaincu. Bon, et ça, c'est un avis très personnel, hein, que la profession viticole a des intérêts qui sont parfois divergents au sein d'une même appellation, et donc que par conséquent. Ils ont du mal à se mettre d'accord sur une définition du cahier des charges à soumettre à l'INAO. Ça reste ça.
Et l'INAO elle-même
au sein des
n'est faite que de vignerons.
Au sein des comités nationaux, etc.
Les décideurs sont tous vignerons.
Voilà, donc est-ce qu'il n'y a pas une histoire de vieille garde, nouvelle garde? Enfin, on est sur des institutions qui sont politiques. On connaît les querelles de clochers qui peuvent se placer au niveau des vignerons, au niveau du village. Donc, quand tu regardes au niveau national qu'ils doivent se mettre d'accord pour autoriser tel truc ou tel autre truc, moi, je vois que l'exercice est quand même très, très compliqué.
Oui, non, enfin, moi, j'ai bien aimé l'idée. Enfin, c'est assez bien résumé. C'est que l'INAO, malgré tout, ou les systèmes des AOC doit s'adapter parce que la définition locaux, loyaux, constants, locaux, loyaux, c'est le cas, je pense, de tous les vignerons, mais la constance n'est plus d'actualité. Donc, comment on traite l'inconstance? Et je pense que quand même, pas l'INAO, mais enfin, le système des appellations, de manière générale, doit repenser l'inconstance, tout en, autant que maintenant les différentes.
Les canons de la constance.
Exactement. Non, mais voilà, c'est pas évident. Mais bon, voilà, comment on traite l'inconstance, c'est vraiment l'enjeu de l'INAO, dans les années qui viennent, quoi.
Grand écart redoutable. Merci, messieurs.
Merci. À très bientôt.
À très bientôt.
À bientôt, au revoir.
À bientôt pour un nouvel épisode dans une paire de semaines, comme d'habitude. Merci de nous écouter. À bientôt. Ciao.